Vous écoutez Ballet Pat saison 2, épisode 1. L'homme avec un grand H.
Un podcast RFI.
Bonjour, c'est encore moi, Penaï Traoré. Je vous reviens avec Ballet Pat.
Aouni Nyantouma. Bonjour.
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 Je m'appelle Penaï Traoré
et vous écoutez Ballet Pat. C'est à partir de là que les femmes du monde entier ont commencé à dire « Me too », moi aussi.
Today, we are launching a campaign.
Doina veut dire « assez », ça suffit, stop.
Ce n'est pas l'avènement qui provoque le viol, mais c'est plutôt du fait des prédateurs.
Donner plus de votre temps ne va pas empêcher un homme d'aller voir ailleurs.
Je crois tout simplement qu'il s'est sauvé parce qu'ils étaient enceintes.
Si être féministe, c'est défendre les droits des femmes et combattre les injustices sociales auxquelles elles sont confrontées, alors tu es féministe. Tout le monde devrait être féministe.
La fille, elle saura que son papa est là. Ça, je vais le défendre jusqu'au bout. Laisse-moi faire. Tout ce que je fais là, c'est pour toi. Laisse-moi faire.
Je m'appelle Penaï Traoré et vous écoutez
Ballet Pat.
Après la saison 1, dont on vient d'écouter quelques extraits, je n'ai pas arrêté d'explorer le féminisme. J'ai continué d'approfondir mes connaissances sur le sujet. J'ai dévoré plein de bouquins, des articles, écouté des podcasts, assisté et pris part à des rencontres avec des féministes engagées et passionnées. Je pense que je n'ai jamais autant acheté de livres sur une thématique. D'ailleurs, merci à celles et ceux qui m'en ont offert. Récemment, j'ai fait un tour dans les commentaires des épisodes de la saison 1 de Ballet Pat, disponible sur YouTube. Il y avait notamment un homme qui regrettait, je cite, « que les femmes se soient davantage exprimées que les hommes dans le podcast, alors que ce sont eux qui sont le plus souvent accusés de viol ». Alors, devinez à qui j'ai entièrement décidé de consacrer cette saison 2. Aux hommes. En 10 épisodes, on va s'intéresser aux masculinités. Une notion que je vais vous expliquer tout au long de cette série en me basant notamment sur mes lectures. Que pensent les hommes du féminisme? Se sentent-ils menacés par cette idéologie? On ne va pas tarder à le savoir.
Les personnes qui se réclament féministes voulaient nous imposer des idéaux de vie qui ne cadrent pas avec notre référentiel sociologique. Ce qu'on réclame aujourd'hui, sous prétexte de l'émancipation de la femme, en réalité c'est le libertinage. C'est-à-dire, les femmes réclament plus de liberté. La femme doit être soumise, ce n'est pas être soumise à son mari, mais au foyer. Mais la première règle est que c'est l'homme qui est le chef de la famille.
Attendez, rappelez-moi, à quoi les hommes sont-ils soumis, eux?
Les coutumes, il y a les religions, et puis il y a le patriarcat. Moi, je pense que tout est lié. C'est le même produit qui est empaqueté, et puis qui est peut-être vendu aux gens de façon différente. Quand on veut interdire, on cherche un prétexte, et ce prétexte-là, c'est les traditions.
Effectivement, ce sont toujours les mêmes arguments qui sont évoqués. Les femmes ne doivent pas faire ci, les femmes ne doivent pas faire ça. Comme d'autres, je suis fatiguée des traditions et de la religion qui sont utilisées comme prétexte pour tout interdire aux femmes.
Nulle part, vous allez voir qu'on dit que la femme doit être soumise, non? Ça n'existe pas. Tous les êtres sont égaux. L'islam l'a dit depuis 1444.
Eh bien, ce n'est pas ce qu'on m'a toujours dit. On nous aurait donc floué, nous les femmes, pendant tout ce temps, soit disant que la religion voudrait que la femme soit soumise. Comme vous peut-être, quand je ne comprends pas bien certaines choses, je me plonge dans les livres. Et tout ce que j'ai eu entre les mains m'ont permis de faire des découvertes, de me rendre compte aussi que tout était déjà écrit depuis longtemps. Les revendications féministes, la dénonciation du patriarcat, l'afroféminisme avec Bell Hooks, tout est dans les livres, je vous dis. Plus je me cultivais, plus j'avais envie d'aller loin. Plus j'allais loin, plus j'apprenais de nouvelles choses que j'avais très envie de partager autour de moi. Je reviens donc plus engagée, plus combative encore, tout en ayant foi en l'avenir. Je suis la deuxième d'une famille de 3 enfants. J'ai un grand frère et un petit frère. J'ai donc grandi entre 2 garçons. Dans la saison 1 de Ballet Pat, je vous racontais que j'ai été éduquée dans un environnement très normé qui veut que la place de la femme soit dans la cuisine et que l'homme est le chef de famille et le pourvoyeur économique du foyer. J'ai donc appris très tôt à cuisiner et à m'occuper des tâches domestiques pendant que mes frères, eux, passaient la plupart de leur temps à jouer au foot. Dans la saison précédente, il était question de la place des femmes dans les sociétés africaines après MeToo et comment ce mouvement né aux États-Unis et lancé par une femme noire a permis de briser le silence, inspirer et encourager les jeunes féministes africaines à mettre en place des initiatives, notamment au Sénégal, pour accompagner les victimes et survivantes de harcèlement, d'agression et de viol. J'invite d'ailleurs les hommes à écouter ou réécouter la saison 1 et les femmes à écouter cette saison 2 et vice-versa, car c'est en se mettant dans la peau de l'autre qu'on arrive à mieux le comprendre. Dans la saison 2, il sera question des masculinités noires que l'on commencera par définir. Je demanderai aux hommes ce qu'ils pensent du patriarcat et des privilèges dont ils ont toujours bénéficié. D'où vient l'imaginaire de l'homme noir viril ? Quelle masculinité faut-il construire afin que les générations futures ne reproduisent pas les mêmes schémas ? C'est le propos de cette nouvelle saison où j'ouvre mon micro à des jeunes hommes noirs, africains, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et aussi à Paris. Vous entendrez un sociologue, mais aussi un homme qui dit défendre les valeurs africaines et d'autres qui se définissent comme féministes. Si le vent de libération qu'a été MeToo a soufflé sur le continent, il a dans le même temps été un exutoire pour certains hommes noirs et africains qui voit le féminisme comme un concept occidental importé. Il continue de perpétuer ce qu'on pourrait qualifier de masculinité toxique, c'est-à-dire le fait que les hommes se comportent d'une certaine manière parce qu'ils sont des hommes. Cela dans le but de montrer leur supériorité sur les femmes et que c'est à eux de faire certaines choses, par exemple payer l'addition dans un restaurant ou encore qu'ils ne doivent pas s'occuper des tâches ménagères.
Tout est parti des débats houleux, des débats chauds sur les réseaux sociaux en début d'année 2020 avec des personnes qui se réclament féministes sur les réseaux sociaux. Je suis Zakaria Gengani, porte-parole de la communauté féodale au Burkina. On avait fait le constat que les personnes qui se réclament féministes voulaient nous imposer des idéaux de vie qui ne cadrent pas avec notre référentiel sociologique, qui ne cadre pas avec nos réalités socio-culturelles. J'aimerais en tout cas situer un peu le contexte qui a favorisé l'éclosion du mouvement. Contrairement à une certaine opinion, la team féodale, ce n'est pas un regroupement d'hommes ou encore un regroupement de personnages archaïques. La team, c'est un courant de pensée qui défend des valeurs africaines portées par des hommes et des femmes réfléchis, instruits, cultivés, mais qui sont attachés à certaines valeurs africaines. Et nous estimons qu'il y a des valeurs qui avaient une longueur d'avance sur un certain nombre de points.
Dans la team féodale, on trouve des hommes et des femmes qui se sont donnés pour mission de défendre ce qu'ils appellent les valeurs africaines, qui sont pour eux la polygamie, le mariage, la soumission de la femme. La team féodale édulcore son discours en jouant sur les mots, mais ne change pas réellement sa position sur l'égalité ou disons l'inégalité entre l'homme et la femme.
Je pense que c'est l'émancipation mal comprise qui a envoyé tout cela. Parce que ce qu'on réclame aujourd'hui sous prétexte de l'émancipation de la femme, en réalité c'est le libertinage. C'est-à-dire les femmes réclament plus de liberté. Et quand on réclame plus de liberté...
Plus de liberté d'être libre de choisir en tant qu'adulte, de faire ses choix. Liberté et libertinage, c'est pas pareil.
Libertinage, pas liberté, mais quand je parle de liberté, c'est la liberté absolue. En réalité, la femme réclame plus ça. Voilà. Quand je dis que de plus en plus les femmes réclament plus de liberté, c'est pour renverser les rôles dans la société.
C'est quoi les rôles dans la société?
Non, quand je parle de rôle, par exemple dans le mariage, l'homme a un rôle à jouer, la femme aussi a un rôle à jouer. Maintenant, aujourd'hui...
C'est quoi les rôles des uns et des autres dans le mariage, de l'homme et de la femme?
Ben, dans le mariage, il faut dire qu'il y a des valeurs qui sont établies. Et la première règle, c'est la soumission dans le foyer. Mais quand on dit la femme doit être soumise, ce n'est pas être soumise à son mari, mais au foyer. Mais la première règle est que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Mais de plus en plus, on constate que les femmes veulent prendre le rôle de l'homme en tant que chef, alors qu'il peut avoir deux chefs dans le foyer.
C'est pas que les femmes veulent prendre la place des hommes dans le foyer, c'est juste qu'il y ait égalité de traitement.
Quand on parle de la femme soumise, là, ce n'est pas la femme qui doit être soumise à son homme. C'est-à-dire, c'est la femme qui doit être soumise aux règles du foyer.
L'homme est soumis aussi aux règles du foyer?
Bien sûr, mais il faut que la femme comprenne que une fois qu'elle s'engage pour le mariage, elle peut plus continuer à mener une vie de célibataire tout en étant dans le foyer.
Mais l'homme aussi ne peut pas mener une vie de célibataire en étant marié, hein?
Oui,
en étant dans le foyer.
Bien sûr, mais il se trouve que les femmes, de plus en plus, sous le prisme de l'émancipation, de la libération de la femme, elles réclament plus de liberté. De plus en plus, elles pensent que, bon, il n'y a pas de limite en étant dans le mariage.
Si je résume les propos de Zakaria Gengané, la femme doit être soumise au foyer dont le chef est nécessairement l'homme. Dans la saison 1, on a vu que les arguments souvent avancés pour justifier la domination masculine ont pour nom tradition, coutume, culture, habitude, préjugé. Constance Yahi, ancienne ministre ivoirienne de la femme, a beaucoup écrit à ce propos. Dans son essai « Les traditions prétextes », on peut lire « Le constat est clair. L'attachement aux valeurs traditionnelles ou à ce qu'on appelle la dimension culturelle sont évoqués pour légitimer la marginalisation des femmes et justifier les violences qui leur sont faites. » Fin de citation. Après avoir lu son livre, que j'ai adoré, j'étais impatiente de la rencontrer. Elle m'a chaleureusement reçue chez elle dans un quartier résidentiel à Abidjan.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va.
Bienvenue, ça n'a pas été facile.
Oui.
Moi, je pense que tout est lié. Les coutumes, il y a les religions, et puis il y a le patriarcat. C'est un ensemble fait de même. C'est le même produit qui est empaqueté et puis qui est peut-être vendu aux gens de façon différente. Le patriarcat sous-tend les actes que nous posons dans la société. Le patriarcat sous-tend nos religions. Le patriarcat sous-tend nos coutumes. Donc, c'est à nous d'extirper ces éléments-là. On ne peut pas mettre fin aux religions, mais on peut faire un effort pour traduire les textes religieux de manière à respecter les droits des femmes, qu'il s'agisse du christianisme ou de l'islam, comme c'est fréquent chez nous, ou alors des habitudes culturelles traditionnelles anciennes. Il faut faire en sorte que l'on puisse pratiquer sa religion sans écraser l'autre. Et quand je regarde bien, c'est ça l'essence de la religion, justement. La religion, c'est l'amour de l'autre. On vous dit, il faut aimer Dieu, il faut aimer votre frère, votre soeur, il faut aimer votre prochain, comme vous aimez Dieu. Ben alors, si l'on doit aimer son frère, son prochain, comme on aime Dieu, pourquoi on maltraite les femmes? Pourquoi on les martyrise en s'appuyant sur des textes religieux? C'est la preuve que c'est faux. La traduction qui est faite de ces textes-là n'est pas une traduction qui vient de Dieu. Ce sont les hommes qui ont profité de certains égarements pour présenter les textes religieux de cette manière. Sinon, il y a la religion qui est faite de tolérance, d'amour, de valeurs complètement positives. Et puis, il y a l'interprétation des textes religieux. Donc, il faut être très vigilant et faire attention. Quand quelqu'un commence à vous dire des choses, demandez-lui de vous prouver qu'il a bien lu dans un texte et que c'est exact.
L'intitulé de votre livre, vous parlez de tradition prétexte. Pourquoi tradition prétexte?
Oui, lorsque dans cet essai, je mets côte à côte tradition et prétexte, c'est parce que j'ai constaté au bout de plusieurs réflexions qu'à chaque fois que l'on me ramenait ou que l'on nous ramenait ou que la coutume était invitée à un débat, c'était toujours pour l'utiliser comme un prétexte. Et l'analogie rejoint aussi la religion, l'analogie rejoint toute une série d'éléments qui sont souvent utilisés pour arrêter, pour freiner ou pour bloquer le débat, le libre débat démocratique. On vous dit, ah non, là tu vas sur un terrain dangereux parce que c'est la religion qui l'a dit, on ne doit pas en discuter. Attention, on ne parle pas de ça parce que c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans le Coran. Donc quand on veut interdire, on cherche un prétexte et ce prétexte-là, c'est les traditions. Et c'est souvent des traditions qui ont été utilisées contre les droits des femmes, des traditions qui ont été utilisées contre le progrès social, et ils ont été utilisés comme en les prenant pour prétexte. Vous n'aimez pas l'Afrique quand vous refusez qu'un homme puisse avoir 4 ou 5 femmes. Vous n'aimez pas l'Afrique quand vous refusez que le 10e enfant soit tué, parce que c'est comme ça que l'a dit la coutume. C'est leur manière à eux de faire leur contraception. Vous n'aimez pas l'Afrique quand vous refusez que les jeunes filles soient excisées. Vous n'aimez pas... Enfin, bref, on vous met toujours en difficulté vis-à-vis de vos origines. Il faut le dénoncer. Ce n'est pas parce que je suis africaine que je vais accepter que ma société stagne dans des comportements, dans des habitudes qui refusent le progrès. Si on est d'accord pour prendre dans la tradition ce qui est positif pour avancer, ok, je suis pour.
Vous avez entendu Constance Yahi nous expliquer comment les traditions et les coutumes sont utilisées pour brimer les femmes. Mais généralement, il y a un troisième maillon qui s'ajoute à la chaîne. C'est la religion, notamment l'islam, souvent évoquée pour légitimer l'ascendant de l'homme sur la femme. Pour comprendre ce que cette religion dit réellement sur la question de la soumission de la femme tant prônée par les conservateurs, je suis allée voir un imam. Cette fois, à Abobo Sojefia, un quartier populaire de la capitale ivoirienne.
Je suis imam Ibrahim Akone, imam à la mosquée d'Abobo Sojefia, une commune d'Abidjan. Je suis par ailleurs vice-président du Conseil national islamique et je suis aussi le secrétaire général du Forum national de confession religieuse de Côte d'Ivoire, qui est une fêtière qui regroupe l'ensemble des confessions chrétiennes et l'ensemble des confessions musulmanes de Côte d'Ivoire.
Il n'y a pas un texte spécifique dans le Coran qui dit que la femme doit être soumise. Il n'y a pas ce texte-là dans le Coran.
Ça n'existe pas. Nulle part, vous allez voir qu'on dit la femme doit être soumise, non? Ça n'existe pas. Tous les êtres sont égaux. Donc, l'islam l'a dit depuis 1444 ans. Donc, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas quelqu'un qui a un droit sur l'autre, l'un par rapport à l'autre. Donc, nous avons tous le même droit.
Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la question du droit des femmes, l'égalité entre hommes et femmes. Vous qui êtes un homme religieux, qu'est-ce que l'islam dit de la place de la femme?
Alors, je voudrais commencer par vous dire qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Ils sont tous la même chose en islam. Parce que la femme, elle n'est pas une soumise. Pourquoi aujourd'hui, on va dire que non, la femme, elle est inférieure? Non, la femme, elle est l'égale de l'homme.
Et d'où est partie l'idée que les gens interprètent que la religion, que l'islam dit que la femme doit être soumise?
Et vous savez, la tradition a beaucoup influencé la religion musulmane. Parce que l'islam est venu trouver nos traditions africaines. Et donc, ces traditions africaines-là, je me rappelle encore hier, le matin, la femme, dès la prière de 5h du matin, là, c'est fini, elle prend le panier, elle s'en va au champ. Et le monsieur, lui, dort gaillardement. Et puis après, il se réveille, bon, peut-être vers 9h, c'est là, il s'en va. Et donc, elle est en train de travailler, de labourer le champ. Lui va s'asseoir, il est en train de chiquer son tabac pendant que la femme travaille. Et puis, elle finit ce travail-là. Elle vient encore, celle qui va venir encore préparer pour l'homme. Il va manger. C'est comme si c'était de l'esclavage. Le fait que la femme vous prépare à manger, lave vos habits, tout ça, bien sûr, il faut le faire. Mais ce n'est pas une obligation pour la femme. Ce n'est pas l'islam qui a obligé ça. Au contraire, le but du mariage, c'est la procréation. Donc, si on voit la femme est venue pour faire des enfants. Mais pour s'occuper de la nourriture, pour s'occuper de l'homme, elle ne peut le faire par volonté. Ce n'est pas obligatoire. Et l'histoire nous l'apprend. Donc, c'est la tradition qui a influencé la religion. Bon, il y a un travail qui a été fait, mais ce n'est pas facile. Mais au fur et à mesure, je pense que ces préjugés sont en train de disparaître.
Si j'en crois cet imam, il n'y a aucune obligation et donc aucune soumission dans les textes religieux. En tout cas, dans l'islam, tout est basé sur une construction sociale. Aujourd'hui, de nombreuses femmes sont bien déterminées à remettre en question des coutumes et traditions qui ont justifié leur soumission. À ce sujet, Constance Yahi écrit encore « Déconditionner, démystifier, déconstruire, tels sont les nécessaires réajustements à faire si l'on veut que change le regard des femmes et de la société sur la place et le rôle de ces dernières. Les fausses valeurs assimilées au fil du temps, alors qu'elles sont fondées sur des mensonges, finissent par devenir des vérités. Leur remise en question devient un impératif. Mais en attendant que les choses changent, beaucoup de femmes qui vivent dans un modèle de soumission dans le couple pensent pourtant bien faire. Il y a une romancière ghanéenne, Ama Darko, qui décrit parfaitement l'engrenage dans lequel une femme peut très vite se retrouver en voulant montrer qu'elle est une bonne épouse.
Il était naturel qu'après m'être réveillée la première à l'aube, je fasse le feu pour chauffer l'eau du bain d'Akobi. Ensuite, je portais un seau d'eau et une éponge au bain public et revenais le réveiller, lui dire que son bain était prêt. Il était tout aussi naturel que je reste debout au dehors pendant qu'il se baignait, juste au cas où quelques paillettes de savon lui seraient tombées dans les yeux et où il aurait besoin de moi. De plus, c'est toujours moi qui portais le seau vide au retour. Je portais aussi les accessoires de bain et m'occupais de faire sécher sa serviette pour le lendemain, car il avait horreur des serviettes humides. Il était tout aussi naturel que je dorme par terre à même le béton, sur une natte mince, tandis qu'il dormait seul sur le grand matelas d'herbe sèche. Amad Arco, par-delà l'horizon.
Ce que cette romancière raconte là, c'est le quotidien de beaucoup de femmes dans les zones rurales et même parfois en zone urbaine. Se lever à l'aube, chauffer de l'eau pour le mari, lui porter cette eau à la douche. Cela me rappelle le mois de Ramadan chez les musulmans. Un mois intense et épuisant pour les femmes. Ce sont elles qui se lèvent à 3h du matin, tous les jours pendant un mois pour préparer à manger pour que toute la famille puisse jeûner. Sans parler de toutes les autres tâches domestiques quotidiennes qui jalonnent cette pratique religieuse. D'ailleurs, hasard ou pas, j'ai constaté depuis mon enfance qu'à l'approche du Ramadan, les mariages se multiplient. C'est sans doute le moment où certains hommes se rendent compte qu'ils n'ont jamais appris à cuisiner ou tout simplement qu'ils n'ont pas envie de le faire. Ils cherchent donc à se marier pour qu'une épouse leur fasse à manger et qu'elle s'occupe de toutes les corvées domestiques pendant cette période. Tout comme le personnage d'Akobi dans le roman d'Amad Arco, c'est cette souffrance des femmes africaines que certains hommes, et même des femmes, saluent et encouragent. Car à leurs yeux, une vraie femme africaine se définit par sa capacité à endurer la souffrance. Et c'est dans cette souffrance qu'elle trouve son salut. Les féministes essaient d'interroger ces normes qui ont façonné notre société. C'est ainsi que Bintou Mariam Traoré, féministe et responsable communication de la Ligue ivoirienne des droits des femmes, lance en février 2020 le hashtag « Vraie femme africaine ». Ce mot-clé vise à détourner par l'ironie les stéréotypes dont sont victimes les femmes africaines. Il a immédiatement eu du succès sur les réseaux sociaux. Des centaines de femmes s'en sont emparées pour dire leur ras-le-bol.
Une vraie femme africaine ne s'offusque pas quand son mari la trompe. Elle se remet en question. La vraie femme africaine fait un massage à son mari, car ce dernier a mal partout à force de la tabasser. Une vraie femme africaine reste derrière son mari quand il marche dans la rue. Marcher à côté est un manque de respect. Il te viole? Viole tes enfants? C'est ton mari? Attrape ton cœur et prie. Une vraie femme africaine ne laisse pas le diable gâcher son foyer.
Toutes ces injonctions n'ont qu'un seul but. Justifier le fait qu'une femme qui refuse la soumission et qui décide de s'y soustraire est une femme qui ne sera pas respectée dans la société et de définir les femmes par leur statut marital. C'est la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Dans le prochain, nous parlerons du mythe de la virilité et d'où vient l'imaginaire du sexe surdimensionné des hommes noirs. N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux. Parlez-en autour de vous, surtout aux hommes de votre entourage, car la question des masculinités est tout aussi importante que le féminisme. Vous avez aimé cet épisode? Je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast et à lui attribuer 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À bientôt!